Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Abra le corps.
Bonjour à tous. J'ai commencé ce podcast en parlant de corps, parce qu'il est ce qu'on possède tous. La première image que l'on renvoie aux autres. Parce qu'ils sont façonnés historiquement, socialement, émotionnellement, par tout ce qu'on voit. Parce qu'ils sont parmi les derniers territoires qu'il nous reste quand on n'a plus rien. Ceux qui peuvent ou non nous maintenir en vie. Nous en prenons d'autant plus conscience aujourd'hui face à l'épidémie. Ils peuvent également devenir nos propres instruments de torture. Le théâtre ou l'outil de violence que les institutions de pouvoir cherchent à contrôler, normaliser, comptabiliser, à lever les uns contre les autres. Nos corps sont ces choses étranges qu'on apprend à aimer, à tolérer ou à haïr. Des points transmetteurs de sensations, des toiles sur lesquelles se dessinent nos émotions. Dans nos cultures occidentales, nous avons depuis environ la moitié du XXe siècle fait des corps un rapport très individuel. Dans d'autres cultures, le corps physique propre n'est pas le premier élément de mesure. Il est fondu dans un autre ensemble, au sein d'une identité plus collective, et cela change énormément de choses en termes de représentation et de choix et de priorités de vie. Parfois, le corps est partie intégrante d'un système environnemental, voire cosmique, est pris et appréhendé d'abord par ses interactions avec les autres composants de cet univers. Après plus d'un an de ce podcast, alors qu'on s'extrait lentement d'une partie des restrictions sanitaires, je souhaite refaire un bilan de rage, sur ce qu'évoquent aujourd'hui les corps qui m'entourent.
Le cœur sur le sol. Relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tout ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne.
Il y a tout d'abord le redéploiement du pouvoir sur ses corps. Celui-ci nous explose à la vue, au nez, aux oreilles, aux mains. J'ai commencé ces podcasts en recourant au concept de biopouvoir, c'est-à-dire de contrôle des corps par des institutions de pouvoir telles que théorisées par Foucault et repris par des philosophes comme Roberto Esposito ou Paul V. Preciado. Nous sommes certes en partie sortis de l'époque des institutions totales, psychiatriques, carcérales, scolaires, etc., chargé de discipliner directement les corps. Nous sommes entrés, comme le monde Sam Bourcier ou Paul B. Preciado, à la suite d'autres sociologues comme Norbert Elias, dans une époque où nous avons désormais bien incorporé les normes et où le contrôle vient ainsi plus directement de chacun, chacune, un d'entre nous, pour s'exercer sur nous-mêmes et sur les autres. La crise du Covid a parfaitement illustré cela, en multipliant les technologies devant nous permettre de nous auto-surveiller, prenant notre température, nous testant, mais aussi en dépistant les autres via l'application Covid. Au-delà des avantages directs de prévention, cette nouvelle manière de gouverner les corps permet aussi de nous faire oublier les vrais responsables de l'épidémie et de sa gestion catastrophique, pour pousser à la hantise de contaminer les autres et à la culpabilité qui l'accompagne.
Sous contrôle, tout est sous contrôle. Contrôle, la zone est sous contrôle, est sous contrôle, tout est sous contrôle, est sous contrôle, la zone est sous contrôle.
Néanmoins, les institutions de pouvoir, qui régnaient à l'époque précédant les révolutions technologiques et le développement forcé à croire à l'individualisme, ce que le sociologue Erwin Goffman appelait les institutions totales, celles-ci existent toujours et elles ont, elles aussi, nettement refait surface pendant toute l'épidémie. Les institutions scolaires, hospitalières, psychiatriques, les EHPAD ont redoublé leurs mesures d'isolement et de discipline. Déjà conçues pour encadrer les corps, elles ont multiplié leurs réglementations, isolé davantage encore chacun chacune un d'entre nous, tuant dans l'œuf les perspectives d'échange, de recul, de mobilisation, en brandissant le bâton, le stigmate, l'enfermement face à chaque once de résistance. Peu à peu, nos corps, nos psychés, intègrent ce mode de gouvernance. L'état d'urgence sanitaire nous pousse à nous accommoder de la privation de ce qui nous a toujours été essentiel, jusqu'à un certain point bien sûr, selon les besoins, les différents freins que l'on rencontre ou non, les forces de chacun, chacune, chacun. Les manifestations et les stratégies de résistance ne sont jamais loin. Peu à peu, on s'habitue à trouver normal d'esquiver les camions de flics, à télécharger des attestations, pirates ou non, pour justifier de tout. On s'habitue à la fermeture de tout espace extérieur, de rencontres, jusqu'à n'en plus pouvoir, et les recréer de force. Et en même temps, le fait de dépendre des décisions d'un État tout-puissant ou de ses pions des préfectures rentre aussi dans nos nouvelles représentations. C'est à peine si les médias dominants s'émeuvent de projets visant à toujours davantage criminaliser toute expression dissidente, à interdire de filmer des keufs surarmés, à se mobiliser pour une recherche et une pensée plus diverses, pour la reconnaissance de son travail, à revendiquer des réparations face au drame économique, sanitaire, bref en tout point vital, qu'a provoqué l'épidémie et sa gestion merdique. On trouve presque banal que l'État ait son mot à dire sur quelles revendications, quelle pensée d'opposition est ou non acceptable, s'équipant pour criminaliser tout ce qu'il considère comme séparatiste. De manière générale, on se retrouve tous infantilisés, réprimandés. D'un besoin de prendre soin et de préserver nos vies, on se retrouve dépossédés de nos propres capacités de soins, de nos intelligences émotionnelles et affectives, jugées incompétentes à savoir de quoi on a besoin, contraintes, à des couvre-feux, stigmatisés et soumis à des punitions similaires, financières, quelles que soient nos situations personnelles. En plus de déjà recevoir suffisamment de budget, qui n'est du coup pas mis ailleurs, à l'hôpital ou redistribué aux plus précaires par exemple, presque tout pouvoir est donné aux patrouilles de police, appréciant de manière absolument arbitraire la légitimité de nos déplacements par leur grille toujours raciste, classiste, sexiste et compagnie. L'État surfe sur la vague des émotions provoquées par cette pandémie. Et comme nous sommes depuis longtemps coupés des savoirs sur nos corps et sur ce qui les menace, nous nous trouvons obligés de nous en remettre à une autorité supérieure, qui elle-même s'appuie sur le mirage des chiffres et de pseudo-rapports scientifiques, souvent contradictoires, pour justifier à peu près tout ou n'importe quoi. Restrictions, pistage, enfermement, tri, dépistage, séparation, surveillance, criminalisation. Pour les institutions administratives, pas de place à l'imprévu, aux sensations, aux affects, aux différentes individus, corps, aux fonctionnements internes et aux fonctionnements sociaux, que des chiffres devant rentrer dans des standards et répondre à des questions statistiques, biaisées et enfermantes. Un tel fonctionnement de gestion des corps dans un État capitaliste néolibéral devait nécessairement s'opérer de manière inégalitaire et mortifère. Il fallait mettre en place des systèmes de comptabilisation et de triage. Des corps, car il ne s'agissait plus d'individus, mais bel et bien de simples corps, ont été triés. Il fallait que redouble d'efforts la classe des minorités, sexisées, racialisées, précarisées, qui toujours maintient le système en place par son travail gratuit ou extrêmement peu et mal rémunéré. On a puisé tantôt dans les ordres, les pressions hiérarchiques et financières, tantôt dans des congratulations symboliques pour encenser les soi-disant sacrifices aux caisses des supermarchés, dans les hôpitaux, les camions poubelles, jusqu'aux nombreuses couturières et RE, grande majorité de genre féminin, dont on a exploité le savoir-faire et la main-d'œuvre, le plus souvent gratuitement, pour compléter les déficits de masques sans pour autant reconnaître leur travail comme essentiel. Et là, intervient l'exacerbation d'un mécanisme déjà bien en place depuis le début des politiques néolibérales des années 80. depuis même bien au-delà si l'on considère que le care gratuit a toujours été dispensé par des minorités et constitué la base de la construction des États capitalistes. Mais les années 80 à 90 ont vraiment officialisé la chose. Après avoir fait croire que les États pourraient se mettre en charge de l'ensemble du social, ils ont finalement délégué l'ensemble du ramassage de miettes aux bénévoles, aux jeunes, aux retraités, prisonniers et prisonnières, handicapés. Sous prétexte de rachat ou d'altruisme, de passion, de vocation, tous celles-eux pour lesquelles on considérait comme normal qu'elles s'engagent au nom de leur famille ou de leur marginalité, ou pour légitimer la perception d'allocation, là où sociétalement les problèmes ne sont pas traités. Alors que l'argent devenait peu à peu la principale mesure de toute valeur, des activités considérées comme purement sociales et ou artistiques, des activités intellectuelles et celles dites de solidarité, échappent à ce système de rétribution capitaliste, ou bien sont cooptées par la suite, mais avec une maigre reconnaissance financière et même symbolique pour les autoristes. C'est ce fameux système de valorisation à deux vitesses qui survalorise la production bullshit, de toujours plus de pubs, de visuels, de création de non-besoins et autres sphères marketing de la Startup Nation qui apportent moins socialement qu'elles ne détruisent d'un point de vue humain et environnemental, pendant que les étudiants et étudiantes, les mères de famille, les artistes, les prisonniers et prisonnières, soignantes, travailleuses sociaux, ouvrières, etc. Bref, celles qui maintiennent la vie physique et psychique, quotidienne et nourrissent l'avenir, sont reléguées au secondaire ou au sacrificiel. En plus de ne pas reconnaître de valeur à nos travaux, ce système nous pousse à nous monter les uns une contre les autres. On se retourne contre les assos, qui ne peuvent payer convenablement autrement que par stage et indemnité de service civique. Contre les soignants-soignantes, profs, travailleuses sociaux, obligés d'appliquer les mesures maltraitantes ordonnées par les gouvernements, portées jusqu'à une responsabilité de vie et de mort sur nous. Tout cela a explosé pendant l'état d'urgence sanitaire. Santé, travail social, travail culturel, travail étudiant, toutes ces personnes n'étaient que des corps à gérer, réprimer, calmer, disqualifier. Si ce sujet du care et du travail gratuit vous intéresse, je vous invite à vous plonger dans le travail de Maud Simonet, notamment interviewé dans la superbe émission Radio Renversée, dans l'épisode spécifiquement intitulé « Renverser le travail gratuit ». Maud Simonet dépeint l'ensemble des nœuds complexes dans lesquels le système capitaliste nous empêtre. S'appuyant sur une lecture des enjeux et limites des mouvements féministes matérialistes des années 70, qui revendiquaient un salaire domestique, la sociologue mentionne les limites de la valorisation monétaire qui ne peut pas être la seule solution, en tout cas pas sur le long terme. Même le revenu universel ne renversera pas les dynamiques racistes, patriarcales, validistes d'exploitation. Il y aura toujours nos travaux affectifs, émotionnels, créatifs de minorités, d'êtres humains en général, qui ne pourront être monétisés.
L'Opéra National de Bordeaux-Aquitaine, haut lieu symbolique de la ville et vitrine de la culture tant par son histoire que par sa situation géographique centrale et son propriétaire, qui n'est autre que le centre hospitalier universitaire, était aujourd'hui occupé par des étudiants, artistes, travailleurs, auteurs, autrices, intermittents, intermittentes du travail et du spectacle. Chômeurs, chômeuses, intérimaires, techniciens, techniciennes, commerçants, commerçantes, toutes et toutes s'unis par la même précarité. Nos objectifs sont de défendre et de renforcer les acquis sociaux et l'accès à la culture, ainsi que de nous retrouver et de vous retrouver.
Mais à quand de nouveaux systèmes de reconnaissance et de valeurs qui nous permettent de répartir les charges, de survivre et d'être reconnus pour tout ce que l'on apporte? En tant que militante, je peux directement témoigner de ce mépris et de cette surresponsabilisation. Elle nous a été directement verbalisée par la préfète en novembre dernier, quand nous l'avons rencontrée avec d'autres représentants de collectifs et associations féministes. Cette préfète considérait que ce sont aux collectifs et associations d'accompagner les minorités de genre victimes de violences et de faire remonter leurs chiffres et observations, comme si ce n'était pas déjà ce qu'on faisait. Des observations, on ne cesse de les clamer, mais personne ne leur reconnaît aucune voie de transmission dans les médias, les champs universitaires et le reste des institutions. On ne prendra en compte que ce qui, dans nos réflexions et nos propositions, pourrait être récupérable et capitalisable par les pouvoirs, accommodable, et ce, sans jamais nous donner la place et les moyens pour continuer nos luttes et vivre, voire survivre à côté. C'est la même chose qui nous est dite quand ils expulsent les squats et nous disent à nous militants, militantes, que de toute façon, on n'a rien à proposer de plus en matière de toit. Qu'on ne fait jamais assez pour loger celles pour qui ils ont les moyens de trouver des espaces d'hébergement. Traverse la rue, je trouve du boulot. Traverse la rue, je trouve du boulot. Traverse la rue, je trouve du boulot. Un jeune, une solution. Nous sommes en guerre. Traverse la rue, trouve du boulot. Traverse la rue, trouve du boulot. Je vous en trouve, moi, du travail. Ça coûte un pognon de dingue. Que des couloirs réfractaires. Un jeune solution. Il faut remettre la France au travail. Ce n'est pas essentiel. Remettre la France au travail ? Remettre la France au travail. Et qu'ils viennent me chercher. Un jeune, une solution. Ce n'est pas essentiel. Un jeune, une solution. Contre les feignants et les cyniques. Contre ceux qui foutent le bordel. Un jeune, une solution. Un jeune, une solution. Contre les gens qui ne sont à rien. Ce n'est pas essentiel. Nous sommes en guerre.
C'est la même chose pour tous les travailleuses sociales sociaux et soignants-soignantes pressionnés d'en haut pour prioriser certaines situations au détriment d'autres et qui seront fustigées sur la place publique et se détestent souvent elles-mêmes d'avoir dû sacrifier certains patients-patientes. On se retrouve entre deux feux, toujours entre deux temporalités, celle du long terme, qui nécessite un reversement de ce système, et celle du court terme, où parce qu'on ne voit pas, nous, des chiffres ou des matricules, mais bel et bien des personnes qui nous entourent, on ne peut pas détourner le regard. Et tout en nous méfiant pour les plus alertes d'entre nous, de nos propres dominations, de nos propres syndromes de sauveureuses, sur le court terme, toujours dans l'urgence, pour la survie, on met les mains dans le cambouis. On bricole, on rapièce tous les manquements des soi-disant acteuristes traditionnels du social ou du service public. Alors on est là, travailleuse, de soins, précaire, bénévole et militante, à s'appuyer, à tenter d'être sur tous les fronts, à recevoir en pleine face la réalité, à s'épuiser, à courir en permanence, en essayant de raccrocher les wagons, parce qu'il nous est de toute façon impossible de fermer les yeux et respirer dans ce monde toxique qui nous instrumentalise et nous nie.
Extrait d'une interview sur Radio Renversée, dans l'épisode « Renverser l'entraide », avec un bénévole pendant le confinement.
Mais ça pose en effet des tas de questions de comment, quand on n'aime pas l'autorité, on arrive à organiser des choses avec des gens qui ont des ressentis, des vécus qui sont radicalement différents. Et dans quelle mesure on peut arriver à se regrouper sur une organisation, l'organisation parallèle, communautaire, à côté, à l'écart. Ben, moi d'un côté ça m'intéresse, ça m'attire, je trouve que c'est une perspective qui est forte. D'un autre côté je me demande s'il n'y a pas un truc contradictoire avec une défense du service public et si, ben voilà, dans quelle mesure on ne rentre pas parfaitement dans le moule d'un projet néolibéral de délégation, privatisation. Je veux dire, jusqu'où il faut servir de tampon social, quoi. Là on arrange peut-être bien tout le monde, mais du coup c'est chiant.
Oui, après vous avez assuré un rôle vital, quoi. Tu vois, pour moi, c'est ça qui fait le. En fait, il y avait besoin de répondre à des nécessités vitales et où l'État était clairement défaillant et le milieu associatif qui pouvait assurer ça avant ne pouvait plus.
Et, ça marche dans cet argumentaire de l'urgence, mais si tu te dis qu'il faut que ça perdure, est-ce que ce genre d'initiative est un levier de transformation de société ou est-ce qu'au contraire c'est un frein parce que ça maintient un genre de statu quo, un pansement, enfin ça rejoint aussi plein de questions qu'on n'a pas envie de se poser et qui font chier sur le statut humanitaire et des choses comme ça.
On ne compte pas nos heures, nous. Ce travail-là ne s'arrête pas quand on a passé le seuil de notre porte, quand encore on a une porte et un chez-soi. Ça reste à tourner encore et encore dans nos têtes. Ça imprime nos sens, nos muscles, nos mémoires. Les récits des autres peuvent devenir les nôtres. sans compter tous les vécus parallèles de nos proches, que bien sûr on décrypte avec une acuité désormais toute particulière.
On œuvre depuis donc 10 ans qu'on a créé cette marche pour créer un réseau national d'entraide, vérité et justice, pour accompagner toutes les personnes qui sont victimes de violences policières ou de violences carcérales, de violences judiciaires. Pourquoi c'était important pour nous de créer ce réseau ? Souvent, quand on est victime de violences policières, on se retrouve isolé, on ne connaît pas les démarches et on n'a parfois pas l'énergie, surtout quand on a perdu une personne, on n'a souvent pas l'énergie de monter un collectif, de contacter des médias, de faire des marches, d'appeler à l'aide tout simplement, parce qu'on est terrassé. Donc ce réseau, il a pour vocation, en tout premier lieu, d'aider et d'accompagner les familles, les victimes, blessées, mutilées, et toute personne qui ferait pas face aux violences d'État.
Tantôt encensée par la morale et les médias, tantôt violentée et poursuivie pour séparatisme selon nos actions. Or, en dehors de ces actions-là qui vraiment prennent de front et les attaquent à la base, bien sûr que les institutions n'attendent que ça, que nous continuions à nous épuiser dans un travail social gratuit, ou presque gratuit. Elles n'attendent que ça de nous déléguer toujours plus, de pérenniser le bénévolat et les réponses d'urgence. Mais en réalité, il n'y aura pas de solution véritable et pérenne pour les plus marginalisés. Tout simplement parce qu'au-delà des dommages collatéraux, de celles qu'on perd par imprévu, une grande partie de ces personnes sacrifiées, ces vies, ces identités, ces corps passés à la trappe, sont nécessaires au maintien du système en place. Il faut aux institutions de pouvoir des boucs émissaires. D'abord la figure de mauvais élèves, pour détourner l'attention publique des mauvaises gestions gouvernementales et donner un peu de sens à la propagation de l'épidémie. Les corps racisés, sans papier, papière, ont été comme chaque fois en première ligne. Et peu importe qu'elles-mêmes jouent un rôle fondamental dans le maintien des activités essentielles à la perpétuation du système économique, en bossant dans la construction, la distribution, la couture, l'entretien, la garde des enfants, etc. Violences policières dans les quartiers populaires et incarcération des sans-papiers sans papiers. L'État autoritaire s'est montré très fidèle à la démarche de criminalisation des personnes immigrées et exilées qu'il suit depuis plusieurs années. Ces élites-là, qui ne peuvent se passer d'organiser quelques bons restos entre elles et rêvent de pouvoir relancer le tourisme, renforcent leur régime raciste de nationalité et d'autorisation de séjour. Là encore, s'expriment différents régimes de valorisation, mais non plus seulement des fonctions, des possibilités d'apport ou non au capitalisme, mais bien de valorisation sur des personnes en tant que telles, entre celles qu'on considère assimilables ou non dans une société raciste. Pour les étudiants, étrangers et étrangères, les Européens et Européennes ou les chercheuses scientifiques estimées utiles, on s'arrange. Pour les autres, les exilés économiques et ou politiques, ou toute personne ayant souhaité ou eu besoin de changer de territoire, il n'y a plus de droit. On les maltraite par des fausses perspectives de rendez-vous. On les assigne à résidence. On passe leur corps au crible. On fiche leurs empreintes. On pèse et on mesure leurs os pour celles qu'on soupçonne de ne pas être mineurs. On multiplie les entraves bureaucratiques à la santé, à l'éducation. On les infantilise, les paternalise. Et elles sont toujours obligées de décliner leur identité, de montrer patte blanche dans tous les sens du terme, de se justifier d'être là et de demander des droits. Et même pour éviter ça, pour leur éviter même la possibilité de se défendre, on accélère la machine administrative pour leur couper l'herbe sous le pied, les renvoyer au plus vite dans leur pays d'origine. Voilà le véritable objectif des politiques d'immigration en France.
Les papiers !
Qu'est-ce qu'on veut ?
Les papiers !
Qu'est-ce qu'on veut ?
Les papiers !
Et pour qui ?
Pour tous !
Et pour qui ?
Pour tous !
La dignité !
Pour tous !
La liberté !
Pour tous !
Égalité !
Pour tous !
Fraternité !
Pour tous !
Solidarité !
Pour tous !
Sororité !
Pour tous !
Le respect !
Pour tous !
Du respect !
Pour tous !
Et on a marre !
Et on a marre !
Négation du respect de leur dignité humaine. Précarisation. Coûts, violences psychologiques et mentales. Ces personnes ont, durant la crise, peut-être plus encore qu'auparavant, constitué les corps non désirés. Et cela ne les a pourtant pas empêchés de se mobiliser très fortement, et même d'être parfois en première ligne des systèmes d'entraide. À tous celles qui craignent l'eugénisme de la part de certaines technologies, Commencez par voir quel type d'eugénisme votre État pratique au sein même des populations présentes sur son dit territoire. À tous celles qui pensent que le fascisme est mort depuis les années 30, renseignez-vous sur les lois des visas, l'extinction des droits des étrangers et étrangères et leur criminalisation. Interrogez-vous sur les suites données aux expulsions de squats et aux conditions dans les centres de rétention.
Politique, y'en a marre
du caméléon,
y'en a marre
des lois racistes,
y'en a marre
des lois fascistes,
y'en a marre
c'est pas la peine,
y'en a marre
ça pue la haine,
y'en a marre
c'est du racisme,
y'en a marre
raciste d'État,
y'en a marre
et y'en a marre.
À côté de celle qu'on ne voulait plus voir, de celle qu'on tue directement de la main des flics ou à petit feu par l'épuisement, les discriminations et les violences répétées ou les renvois vers certains pays d'origine. À côté de celles-là, il y a aussi celles qu'on laisse crever, parce que considérées comme pas importantes. Alors que les mots de terrorisme s'appliquent pour les crimes commis par des personnes revendiquant un islamisme extrémiste, rien n'est dit, rien n'est fait face à la perpétuation des féminicides et des assassinats de l'ensemble des personnes racialisées et ou issues de minorités de genre ou d'orientation sexuelle considérées comme minoritaires.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor. Señor presidente, por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia, justicia, justicia.
Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas,
justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Et l'épidémie continue. La criminalisation des étrangers et étrangères, des racialisés, des précaires ne solutionne pas le manque de matos dans l'hôpital public. Un hôpital géré depuis des années sur le modèle d'entreprise, comme s'il pouvait être tourné vers des objectifs d'économie, de rendement, voire de profit. Alors, l'État a choisi, à couvert, en évitant de s'en vanter dans les médias, quelle vie valait la peine ou non d'être maintenue. Cet État agiste, validiste, a décidé que les plus pauvres, les plus âgés, et celles qu'il estimait handicapés et le moins utiles donc à son système de production, pouvaient être sacrifiés, non envoyés dans les services de réanimation, parfois ne recevant plus leurs soins. On a laissé la plupart seuls, privés de sociabilité et même des minimaux d'hygiène. Tout ça dans l'ensemble des institutions médico-sociales. On en a laissé toute une ribambelle crever. L'État s'affirmant comme le grand-papa menaçant s'est érigé en seul décideur de nos vies, de nos choix, de ce qui relevait de la santé ou pas, de nos besoins ou pas. Pour ne pas s'embarrasser de nos singularités. Il a simplifié et généralisé. Toujours sûr de ses bonnes intentions, il a mis tous les vieilleux les malades et les dits handicapés dans le même panier et les a privés depuis les institutions où IEL était parquée de toute liberté de mouvement, doublement enfermés, sans possibilité d'activité, de visite, d'opinion et d'expression. La santé mentale n'a pas de réalité pour ces élites validistes, on l'aura bien compris. Seul compte ce qui s'observe, en termes de présence virale ou non, de ce qui leur apparaît comme des corps en bonne santé ou non. Et si on n'en remplit pas ces codes, ou que nos corps ont eu le malheur de vieillir en dépit de tout, on passe dans la case des vies avec une valeur inférieure, jusqu'à devenir les corps non désirés. Et gare à celles qui ne se feront pas vacciner, lorsqu'ils auront bien fini par faire passer la politique de certification de vaccination, pour l'accès à tout un tas de services ou de déplacements. L'état d'urgence sanitaire n'a fait qu'exacerber le régime en place, où certaines vies valaient bien sûr déjà davantage que d'autres. Certains corps étaient là pour en décrédibiliser d'autres. Certains peuvent aspirer à tout un tas de conforts, quand d'autres sont faits pour n'être que les rouages invisibles du système. Et je n'ai parlé là que des corps vivants. Mais en Occident capitaliste, la différence de valeur des corps s'exprime aussi une fois la vie terminée. On en parle encore moins, car déjà la mort et le deuil sont des impensés, voire des tabous. Mais oui, si on reconnaît un certain droit de respect des dernières volontés ou l'interdiction d'écrire sur des tombes, nos corps morts, à l'hôpital et après, n'ont pas grande valeur. Encore plus lorsqu'une épidémie les massifie et ferait craindre des contaminations. Une fois mort et morte, on considère que la chose est terminée. On a privé d'accès à ses corps un nombre incalculable de proches. On a refusé de considérer l'importance de ces au revoir, du rapport à nos morts, à reconnaître la dignité des personnes qui ont été et de la manière dont elles devraient pouvoir continuer à être dans les mémoires et selon les spiritualités bien spécifiques, leur droit à une existence post-mortem, qui souvent mobilise des rites et des actions de commémoration ou de funérailles où leurs corps peuvent avoir une importance fondamentale.
The one that you choose from above.
After all,
I'm partly to blame. So drone bomb me. Blow me from mountains and into the sea. Blow me from the mountains and into
blow
the sea.
Yeah.
I'm not so innocent. I blow my head off, explode my crystal guts. My blood, choose my blood. Choose me tonight.
Du contrôle des corps directement liés à la pandémie, le contrôle de nos corps et de nos identités, tel qu'il existait déjà auparavant, se perpétue. Dans la réglementation des reproductions, aka la loi bioéthique et la PMA pour tous, toujours pas d'actualité, des services sexuels, des identités de genre, dans l'assignation sociale systématique à une identité autre, par les mécanismes de racialisation, de mise en situation de handicap, etc., etc. Et nos stratégies de survie ou d'évitement sont elles-mêmes stigmatisées, taxées de déviance à combattre. Nos addictions, nos mal-être, nos dépressions, jusqu'à nos tentatives de sortie du système, nous sont renvoyées à la gueule. Il faut que nous culpabilisions et que nous rentrions dans la norme. Comme si celle-ci était saine et équilibrée. Comme si celle-ci était heureuse et souhaitable.
Ce moment où tout s'arrête. Ton cœur, tes poumons.
et ensuite ton cerveau. Et tout ce que tu ressens, ce que tu désires, tout ce que tu veux oublier, tout ça, ça disparaît. Et d'un seul coup, tu redonnes de l'air à tout ça. Tu recommences à vivre.
Tout cela continue. Et c'est contre tout cela que j'ai eu besoin de créer ce podcast. Pour dénoncer ces contrôles sur nos corps, les violences qu'on leur inflige, et en revendiquer une réappropriation des usages et des identités multiples, des interactions positives et subversives aussi.
You may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Just because I walk as if I have oil wells pumping in my living room. Just like moons and like suns with the certainty of tides. Just like hope springing high. Still I rise. Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes. Shoulders falling down like teardrops. Weakened by my soulful cries. Does my sassiness upset you? Don't take it so hard just because I laugh. As if I have gold mines digging in my own backyard. You can shoot me with your words. You can cut me with your lies. You can kill me with your hatefulness. But just like life, I rise. Does my sexiness offend you? Oh. Does it come as a surprise that I dance? As if I have diamonds at the meeting of my thighs. Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past rooted in pain, I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling and bearing in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the hope and the dream of the slave. And so, wow. There I go.
Nos corps malmenés les préoccupent. C'est nous qui elles accusent de trop vouloir. Trop vouloir étreindre, trop vouloir crier, trop vouloir aimer, danser, flamboyer. Vouloir transmettre. Vouloir pouvoir vivre avec ce qui nous reste de nos corps. Elles, eux, qui les objectivisent, les sexualisent constamment. Les traitent comme des appareils détachés. Les invisibilisent, les mettent en miettes, les trouvent anormaux et dissidents. Ceux-là refusent qu'on puisse à notre tour les utiliser. Utiliser ce qu'on a appris du patriarcat pour monétiser nos services. Se réapproprier chimie et technologie en délégitimant leurs sévices. Et elles veulent être les seules détenteuses de la valeur marchande, de ce qui est travail ou pas, de quel déploiement de muscles, quel savoir a de la valeur ou pas. Qui sera offrande? Qui sera tenaille? Qui s'offusque? Qui est pouvoir? Qui est leur? Qui ne l'est pas? Elles, eux, qui passent leur temps dans l'inutilité, l'accumulation de visuels, de discours et d'administratives, l'universel des blancs mascucis aux contours fictifs et besoins superficiels. Et dans nos cercles militants, toujours à héler nos allégeances en but sur l'illégitimité. Les idéologues ne comprennent pas qu'il ne s'agit plus de vengeance, mais bien de nos corps qui luttent, ancrés dans leur réalité. Et que la fameuse convergence se fait rarement vers les minorités.
Mon implosion est collective, mon éclosion est vénéneuse. Je suis de ces leux infantilisés, sexualisés, objetisés. Je suis de ces leux agressés, violés puis censurés. Je suis de ces leux dont l'absence de genre est invisibilisée, niée, constamment marginalisée. Je suis une personne aux identités multiples, ou plutôt de multiples personnes. Je ne pleurerai pas. Je ne serai plus votre victime et vous ne serez plus mes bourreaux. Je n'ai pas la moindre larme à vous verser. Je ne vous dois rien. Ma colère est incendiaire. J'existe et je ne me tairai pas. Tremblez, le patriarche rame.
Je ne sais pas à quel moment, moi aussi, je me suis brisée. À quel moment est-ce que mon corps est devenu un étranger, pour qu'il soit une prison d'angoisse, du béton à incendier. Un papier que je défroisse pour tenter de m'y exprimer. Il est l'arme de ma révolte, de mes doigts sur le clavier à mes épaules sur les graviers, mes poumons pleins de stress, mes larmes qui frottent la terre, creusent des sillons d'enfer aux bottes des CRS. C'est parce que depuis mes presque 25 ans, j'en ai déjà tant vu et entendu de ces violences-là, que je veux que ce podcast contribue à projeter la force de nos résistances. Ma tête bouillonne de tout ce que je souhaite partager. Et j'ai vraiment envie qu'il continue d'être cet espace de plus où vous puissiez témoigner.
Du coup, j'ai écrit. Depuis 2 ans que j'ai fait mon premier coming out trans non-binaire, mon quotidien s'est rempli de pédagogie sur la question, tout le temps et pour tout le monde. Cette pédagogie, je l'accepte, car si je ne la faisais pas, les gens autour de moi ne cesseraient d'être problématiques, ce que je ne pourrais pas supporter. Je l'accepte car elle m'est nécessaire, mais elle m'épuise et elle me donne la sensation que mon identité aux yeux des gens est réduite à mon identité de genre. Je suis trans non-binaire, je me genre au masculin, je ne suis pas hormonée et je me fais mégenrer quotidiennement. Ces parts de mon identité, elles sont importantes, elles impactent au quotidien toutes les autres sphères de ma vie. Mais ce ne sont que des parts de mon identité, je ne peux me réduire à mon genre et je suis en colère d'y être réduit et j'ai envie de livrer d'autres parts de cette identité. Je ne me satisfais pas de ce que le système nous offre actuellement, je ne le comprends pas et je ne cesse de le questionner, ce qui me met sans aucun doute toujours davantage vers ma vérité et mon bonheur. Je culpabilise très souvent pour les choses sexistes, transphobes, racistes, validistes, classistes, grossophobes, liste non exhaustive, que j'ai pu dire ou faire, mais je tente de me souvenir que la pureté militante n'existe pas et d'être aussi indulgent avec moi-même que je le suis avec les autres. Je suis polyamoureux et je considère dans mon polyamour des relations amoureuses et amicales. Je crush sur énormément de personnes, mais je suis quasi incapable d'aller parler à une personne qui me plaît. Je comprends pas le concept de jalousie comme preuve d'amour. Je comprends pas trop la jalousie en elle-même, même si je la subis souvent. J'adore les plantes et mes plantes, à qui je parle comme si elles étaient mes propres enfants. À chaque fois qu'une chose prend une place très importante dans ma vie, je ressens le besoin de la transformer en tatouage. J'aime les gens qui m'entourent d'un amour qu'il est impossible de quantifier. J'aime danser torse nu en soirée avec elle. J'aime que cet acte devienne normal, mais qu'il garde toujours autant sa sensation empouvoirante. La perspective de travailler ne m'a jamais tentée et ne m'inspire pas. Je fais des études car la psychologie m'intéresse, pas parce que j'ai un jour voulu être psychologue. J'aime pas accumuler des objets qui me servent pas. J'ai arrêté de militer pour les causes environnementales car je ne supportais pas moralement de voir qu'autour de moi les gens s'en foutent. J'ai la sensation que mon militantisme me suivra toute ma vie, quel que soit son objet et quelle que soit sa forme.
Ouais. Depuis ces 1 an de podcast, j'avance moi aussi. Je m'accroche à ce moyen d'expression pour rencontrer les autres, me rencontrer moi-même, questionner, respirer, rêver, enrager et donner du sens. En 1 an, mon propre parcours de corps déjà un peu dissident s'est encore davantage enfoncé, hors du jeu de l'hétéro, validiste, cis-normativité. J'ai commencé ces podcasts en me pensant bi ou pansexuelle et en finissant par me ressentir lesbienne. Je l'ai commencé en me pensant valide et en me rendant compte que ma neuroatypie et les troubles qui m'envahissent sont source de handicap au quotidien. Je l'ai commencé en pensant que mon expression de genre sous-entendait un rapport cis au genre féminin qu'on m'avait assigné pour finalement m'autoriser à vivre ma gender fluidité. Toutes ces catégories, qui ont pendant longtemps laborieusement cherché à encadrer mes rapports à mon corps et mon identité, je les déconstruis encore chaque jour un peu plus, lentement, et je les rejette joyeusement. C'est à la fois très angoissant, et en même temps le début du vrai voyage, de moi-même avec moi-même, mon moi choisi. C'est un voyage qui, je pense, est plus facile à réaliser quand on a la possibilité de s'entourer d'autres personnes comme soi, qui sont vaincues elles aussi, et respectueuse du droit de chaque personne à disposer de sa vie et de son corps, comme elle l'entend, et de pouvoir se nommer soi-même et décider toujours de son identité, aussi mouvante soit-elle. C'est important de nommer et de dénoncer ce qui nous oppresse pour laisser les pseudo-honte et culpabilité dans le camp de celles qui nous les adressent. Et dans le même mouvement, c'est essentiel aussi de pouvoir nous nommer, bien au-delà de nos luttes presque obligatoires, car nous sommes bien plus que ça, et que le podcast est aussi à mes yeux un lieu à soi, pour rêver et s'exprimer, se dire, s'imaginer.
I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means.
C'est pourquoi, parmi les différents sujets que j'ai prévu d'aborder, il y a toujours celui de la parentalité. Parmi les sujets que je vous propose et auxquels je vous invite à témoigner, il y a celui des stigmatisations et des responsabilisations qui pèsent sur les figures maternelles. Le sujet des violences obstétricales et du postpartum, celui des grossesses, accouchements hors du cadre médical et des parentalités hors des institutions et des normes de manière générale. Je constitue également un cycle sur nos rapports et nos visions de l'amour, ainsi qu'un cycle sur le thème de nos relations à l'espace, aux rapports et à la recherche des lieux à nous, sécurisants et stables. Enfin, je travaille également à l'élaboration d'un cycle fait de divers portraits croisés de militants qui m'entourent et m'inspirent, pour en souligner la diversité et le cheminement continu, et donner une visibilité à nos vies, nos engagements, qui s'expriment au quotidien, car ils viennent de nos tripes, nos récits, de nos besoins mutants et de nos désirs profonds, de changer le monde, de renverser ce qu'on souhaite nous imposer, en créant partout, en questionnant toujours tout, pour tout rendre sans dessus-dessous. Alors écrivez-moi.
Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
À bras le corps.